les 90 ans de Tintin. Je suis pas une exception. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir aimé, Tintin. Bon, on n'avait pas toujours les moyens de se payer l'album. Hein. L'album était assez cher. On allait dans les espèces de salons du livre. Là. Dans ce temps-là, ils se promenaient dans les gymnases des écoles primaires. En tout cas, moi, dans mon milieu, là, d'où je viens, une fois par année. Il y avait une espèce de salon du livre, là. Et là, ils vendaient les albums d'Astérix, puis les albums de Tintin, puis les albums de Lucky Luke et tout ça. C'était assez cher, mais quand on avait les moyens de s'en payer un ou quand on en recevait un en cadeau, c'était vraiment un immense cadeau. Et là, Tintin, il y a 90 ans. C'est le 10 janvier 1929 qu'il a d'abord fait son apparition dans un magazine belge. Et pour nous en parler de ses 90 ans, on s'en va rejoindre Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour Luc.
Bonjour Bernard.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont lu Tintin en bas âge et qui l'ont aimé?
Oui, moi j'étais un gros fan. J'ai commencé avec Astérix, par la suite Lucky Luke, et puis éventuellement je suis tombé sur Tintin. Moi c'était mon parrain qui me l'offrait en cadeau.
Ah, oui.
À ma fête générale.
Parce que c'est vrai que c'était assez cher, hein? C'était assez cher, ces albums-là. En tout cas,
oui, puis même encore aujourd'hui, tous les produits de Tintin, les figurines, entre autres, là, j'en ai vu à 150, 200, 300 $, les chandails, 70, 80 $, ce qui est assez dispendieux là, pour un T-shirt. Effectivement, sur ce plan-là, si tu cherches le petit défaut là, sur le plan commercialisation, à tout le moins marketing, c'était généralement très, très cher.
Alors, si qu'est-ce qui démarque l'histoire de Tintin des Lucky Luke ou Astérix de ce monde?
Oui, ben c'est drôle que tu mentionnes ça parce que dans le cadre d'un cours de culture pop que je donne à l'Université d'Ottawa, ce que je rappelle toujours à mes étudiants dans le cours en français, c'est qu'ils ont un privilège extraordinaire. C'est qu'en même temps, ils ont tous ces personnages-là de la mouvance nord-américaine, hein, plutôt des personnages anglophones. Puis par ailleurs, tous ces personnages-là, européens, entre autres, principalement, dans ce cas-ci, on parle d'un personnage belge, mais on parle au-delà de ça de la mouvance francophone. Hein, et c'est comme ça que ça s'est beaucoup développé dans les pays d'Europe de l'Est également. Je pense à la Roumanie. Tu as même des magasins Tintin dans plusieurs de ces pays-là qui sont entièrement consacrés à l'œuvre.
Parce qu'il a été, tout... j'ai des amis anglophones, notamment à Toronto, là, un de mes bons chums, il connaît Tintin, lui. Il sait c'est qui Tintin. C'est un produit francophone qui a réussi à s'internationaliser, Tintin.
Oui, puis à l'origine, dans le cas de Tintin dont tu parles, c'était plutôt le chien, évidemment, que le personnage de Tintin que l'on connaît aujourd'hui. Mais à deux ou trois reprises, Hergé a fait des tentatives pour s'assurer de développer l'œuvre, l'ensemble de l'œuvre, la notoriété aussi de cette œuvre-là du côté du marché anglophone. Une première fois avec Walt Disney, sans blague, il avait envoyé des albums à Walt Disney en disant vous devriez peut-être faire des bandes dessinées là-dessus. Et Walt Disney lui avait renvoyé le colis en lui disant écoutez, on a déjà 4 à 5 ans de projet là, en marche et donc on ne pourra pas. Puis éventuellement, c'est Spielberg.
Oui.
Spielberg au début des années 80. Là, il y a deux ou trois versions, là, ce qui me donne à penser d'ailleurs que quelqu'un quelque part ne raconte pas tout à fait la version exacte, mais Spielberg serait entré en contact avec cette œuvre-là par l'entremise d'une employée qui, elle, dans ses temps libres, était gardienne d'enfants, gardait les enfants d'une famille française en Californie, est tombée à un moment donné sur ces bandes dessinées-là, a présenté ça à Spielberg, qui est tombé en amour avec ça, puis qui a initié un premier contact avec Hergé. Malheureusement, Hergé, entre-temps, est décédé, mais il a eu une option longtemps sur un premier film qui est venu à échéance, puis par la suite, il est revenu à la charge, et là, il a signé un contrat en bonne et due forme, puis ça a donné, ce qu'on appelle ça une bande dessinée, mais le film en images synthèse, il y a quelques années, là, que j'ai trouvé très, très bon.
Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne, hein? Ça, c'est réalisé par Spielberg.
Oui, puis je vais ajouter un autre élément, Bernard, puisque tu parles de ça et que tu ouvres cette brèche-là. Quand on se met à penser le moindrement Indiana Jones, force est de constater qu'il y a énormément de vignettes du film. Hein? Je ne sais pas si tu vois des choses au Tibet et tout ça qui ressemblent étrangement.
Penses qu'il peut y avoir une influence de... Ah oui, hein, dans l'œuvre...
Quand Indiana Jones est sorti à l'origine en Europe, dans le marché français, en fait, francophone, on ne comprend pas en France, là, précisément, évidemment, il est essentiellement, mais on a dit, vous devriez jeter un petit coup d'œil du côté de Tintin. Et ça lui ressemble étrangement. Évidemment, tu me diras que c'est sur le plan des personnages. Dans les deux cas, c'est très différent. Mais sur le plan des aventures,
oui.
Ah, il y a beaucoup de liens. Beaucoup. Là, je regrette. Là, il y a plusieurs similarités.
Tu as préféré lequel, toi? Je suis juste curieux. Et d'ailleurs, si les auditeurs, là, ça vous tente de m'envoyer par texto 98985, peut-être votre album préféré, ou en un mot, ce qu'il vous a apporté, Tintin, je suis pas sûr qu'on va prendre des appels, là, mais par texto, ça fonctionne super bien. Juste me donner une idée, peut-être, de celui que vous avez préféré. Vas-y donc, je te laisse la première réponse.
J'aurais de la misère à t'en pointer un, puis je vais te dire pourquoi. C'est qu'avec Tintin, contrairement à d'autres types de bandes dessinées, c'était jamais tout à fait le même univers. Je m'explique. Tantôt, c'était une enquête policière. Tantôt, tu étais dans la science-fiction, la Lune.
Oui.
Et tantôt, tu étais dans le fantastique, dans le mystère également. Et moi, c'est ça que j'aimais. Puis l'autre aspect, c'est toute la question de l'exotisme. C'est qu'une semaine, tu étais en Europe, la semaine suivante, en Asie. À un moment donné, tu étais chez les Soviets, au Tibet, la Chine, l'Asie également. Puis, on parlait tantôt de l'œuvre qui s'est exportée à travers le monde. Il y a un souci d'adaptation ici qui, moi, me fait beaucoup penser à Harry Potter. Parce que les Dupont et Dupont, c'est les Thompson et Thompson.
Oui.
Mais les Dupont et Dupont dans d'autres marchés, c'est aussi les Johnson et Johnson. Et le professeur Tournesol, du côté anglophone, s'appelle le professeur Calculus. Alors, ça, moi, je trouve ça, je trouve pas si mal. Puis, au-delà de ça, bien sûr, les personnages. Parce que Haddock était systématiquement de mauvaise humeur, qui était l'archétype hein, du gars en lien avec l'univers de l'eau maritime. Évidemment, les Dupont et Dupont qui s'enfargeaient dans les fleurs du tapis, c'est le cas de le dire au sens figuré comme au sens propre. Milou, qui était toujours pourchassé par d'autres animaux, le professeur Tournesol. Moi, il y a tout ça. J'aurais de la misère à te dire qu'il y en a un en particulier qui m'a marqué parce qu'à chaque fois, et sais-tu que sur ce plan-là, là, sur le plan des univers, des exotismes, le plus proche de ça, tu vas voir que je te fais des liens qui vont te sembler peut-être un peu étirés parfois. James Bond ressemble beaucoup à ça aussi.
Oui.
Et c'est parce que dans chacun des romans, tu es dans un univers différent. Et ça, j'aimais bien ça.
Là, tu vois, moi, je vous réserve mon choix, là, mais écoute bien ça, là. Les auditeurs, L'île mystérieuse.
Oui.
Je te donne les choix des auditeurs. L'île mystérieuse, oui. Tintin au Tibet, Objectif Lune, Trésor de Rackham le Rouge.
Oui.
Les sept boules de cristal, Objectif Lune revient, encore Objectif Lune et on a marché sur la Lune. L'île noire. Secret de la licorne, c'est très varié. Objectif Lune revient encore une fois. Objectif Lune encore une fois. Écoute, Objectif Lune encore une fois, on a marché sur la Lune. J'ai l'impression que si je me fie au focus group des auditeurs, là, qui est assez, je pense, représentatif de la population générale, j'ai l'impression qu'Objectif Lune a beaucoup marqué l'imaginaire.
Oui, et là, je soupçonne aussi que les gens qui nous racontent ça ont quelque part dans la fin quarantaine, début cinquantaine, parce que évidemment qu'on a grandi dans cet univers-là où, à peu près au même moment, moi, quand je suis entré en contact avec ces albums-là, à peu près au même moment, de quoi on parlait? On parlait de la Lune.
La conquête, la conquête, ben oui.
Effectivement,
ben oui.
Dont on fêtait, il y a une couple de semaines, un événement assez important, soit dit en passant. Je soupçonne que ces gens-là ont à peu près cet âge-là. Moi aussi, je l'ai bien aimé, celui-là, mais au risque de me répéter, je trouve que dans chacun des épisodes ou des albums, on tombait dans un nouvel univers. Mais je te rappelle, Bernard, que au départ, c'était souvent des histoires qui faisaient plus de 100 pages. Parce qu'à l'origine, c'est publié dans un journal qui s'appelle Le Petit 20e. Mmh. Et lui, il tirait la sauce. Parce que tu comprends qu'il voulait travailler à chaque semaine. C'était le jeudi qu'on publiait les histoires pour les enfants. Il y a le lundi, de mémoire, c'était pour les femmes. Le mardi, c'était autre chose. Mais le jeudi, c'était les histoires pour les enfants. Et évidemment, il voulait garder son emploi le plus longtemps possible. Alors, ces histoires étaient très, très longues. Puis après ça, en collaboration avec un collègue, ce qu'on faisait, c'est qu'on serrait tout ça. Hein? On a-tu besoin de cette case-ci, de cette case-là? Si bien qu'à la fin, l'histoire était extrêmement
concentrée, oui.
Oui.
Alors, moi, je vais te dire, l'éclipse dans le temple du soleil, là,
oui.
Ça, là, je vais te dire une affaire, mon Luc Dupont, là, ça m'a vraiment marqué.
Oui.
Ça m'a vraiment marqué. Puis, alors, donc, j'ai beaucoup, beaucoup ben, tu sais, au-delà de l'avoir aimé, là, parce que je les ai tous aimés dans les faits, là.
Ouais, c'est
mais
bon
ça, problème. Je te dirais, l'image de l'éclipse, il s'apprête à être sacrifié. Tu sais, là, c'est pas vrai, on va pas perdre Tintin, Tintin va pas. Et là, arrive l'éclipse, et là, il devient un dieu. Ça, je vais te dire, et j'ai beaucoup aimé, je pense que j'aime beaucoup l'Écosse, et donc l'île Noire, pour moi, ça a été vraiment une très belle découverte. Mais tu sais, on voyageait pas chez nous, là, on était 6 enfants, là, élevés sur une terre, on travaillait tout le temps. Puis, j'ai commencé à voyager avec Tintin. Vraiment, là, connaître, là, tu sais, savoir ce qui se passait au-delà de mon île, là. Puis, Tintin, ça a été pour ça, c'est un univers créatif, puis un imaginaire extraordinaire pour un enfant.
Oui, et ça se franchissait il y a 40 ans, l'océan Atlantique, ça se franchissait pas avec un avion ou un bateau, ça se franchissait avec l'imaginaire. Et ça est un très, très bel exemple de ça. Donc, pour beaucoup de personnes, ben, le premier contact avec tous ces espaces-là, mythiques, puis je dirais exotiques, hein, parce que le premier contact qu'on en avait était évidemment, c'était des paysages de cartes postales, là, à bien des égards, très, très caricaturaux.
Oui, et, d'ailleurs, on lui en refait, évidemment, avec le recul, on lui en a fait le reproche. Hein. C'était oui. Effectivement très caricatural.
Congo,
ben, oui, au Congo.
Et oui. Et en même temps, ce qu'il a dit, puis je veux pas l'excuser, mais ce qu'il a dit, c'est que l'univers dans lequel il a grandi, c'était celui-là. C'était la culture du moment. Ça excuse rien, je tiens à le préciser. Mais en même temps, c'était ça, puis lui, c'était son environnement bourgeois, c'est comme ça qu'il l'appelait.
Et colonial, parce... et colonial. Hein,
oui, c'était... et colonial,
ben
exact.
Oui, ben oui,
ben parce
oui.
que quand tu parles du Congo, évidemment, le ben Congo
oui.
belge.
Ça.
Et alors, l'objectif final étant de... Faut civiliser, c'est comme ça qu'on ben s'exprimait oui. à l'époque. Puis c'est comme ça que lui, là, je te reprends ses mots à lui, mais il était conscient de ça par la suite. La preuve, c'est que si tu tombes sur de nouveaux albums, ben la leçon de géographie, par exemple dans celui sur le Congo, la leçon de géographie devient une leçon de mathématiques. Alors, il y a un petit souci comme ça d'éviter certains problèmes, mais il était absolument conscient de ça. Mais il est assurément pas sans défaut. Mais en même temps, si tu cherches des personnages sans défaut, je vais t'annoncer que
Ça. Puis il était de son temps. Alors on peut évidemment déplorer le temps dans lequel il a vécu, mais je t'annonce d'ores et déjà que dans 50 ou 100 ans, on trouvera des matières à reproche du temps dans lequel on vit présentement. Là.
Oui.
Ça va de soi.
Assurément. Et on a parfois l'impression que ça va être dans 3 ou 4 mois de nos jours. Mais,
mais
la preuve qu'il a su dépasser ça, Bernard, c'est que, c'est qu'on en parle, toi et moi, 90 ans plus tard. On vend encore 100 000 albums par mois. C'est 200 millions de copies qui ont été vendues depuis les tout débuts. 70 langues, dont, je te rappelle, une version en joual.
Ah oui.
Publié en 2009. C'est une pièce de collection. Si vous l'avez, vous m'appelez, je vous l'achète. C'est 4 à 5 000 exemplaires au Québec.
Ah oui, je ne savais pas.
Oui,
ah
et oui. C'est 10 à 15 % du chiffre d'affaires de Casterman annuellement. Alors, s'il vend encore des albums, c'est parce qu'il n'a pas simplement dépeint la société de 1938. Là,
c'est qu'il a bien vieilli et qu'il a encore aujourd'hui un caractère universel qui parle à toutes les cultures. Ben écoute, merci Luc, tu t'es bien acquitté de ta mission et je retiens, et ça tu me l'as fait réaliser, quand tu dis qu'il nous amenait dans divers univers, je l'avais pas réalisé avant, tu me dis certains albums c'était plus enquête policière, d'autres c'était plus exploration, quasiment à la National Geographic, d'autres c'était plus le fantastique, comme par exemple avec le phénomène de l'éclipse, il y avait une dimension religieuse là-dedans. Alors c'est très intéressant, Luc Dupont, je te souhaite une bonne année 2019, et je rappelle bien entendu que tu enseignes aux étudiants de l'Université d'Ottawa en communication.
Toujours, oui. Alors, et en culture pop, d'ailleurs.
Et en culture
on
pop.
On parle dans un de mes cours, on parle précisément de...
Arrête, tu vas faire monter les inscriptions, là. Tu prêches pour ton clocher. Salut!
Bye-bye.
Luc Lavoie qui s'amène.